Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices des Radio Vassivière, ici Nini Vijegas. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui place l'humain, l'écoute et les soins au cœur de sa pratique. Il s'agit d'Antoine Lacouturière et il est ostéopathe et sophrologue installé au cœur du Limousin depuis 2015. Après près de 10 ans d'études dans les grands sud-ouest, il a choisi de revenir à ses racines pour y créer un espace d'accompagnement bienveillant. Il est également formateur dans des domaines aussi variés que l'anatomie, le développement de l'enfant ou encore la gestion des émotions en entreprise. Depuis l'automne 2023, Antoine nous embarque dans un projet adorable que j'adore. Il s'agit du podcast Toucher du doigt la santé. On a d'ailleurs fait une première interview. Je vous invite à visiter les sites des radioassière.com pour vous mettre à jour et revenir sur aujourd'hui. Ces podcasts Toucher du doigt la santé, c'est un espace des réflexions et des rencontres autour du soin, du bien-être et de la santé. Il y invite des professionnels de santé, des sportifs, des artistes et d'autres personnalités inspirantes à partager leurs outils, leurs expériences, leur vision du corps humain. Ensemble, ils explorent les mille et une façons de prendre soin de soi et des autres. I see a perfect little eyes, watch the shadows of the clouds, the surface of the ocean. Écoutez maintenant la deuxième partie de cette interview avec Antoine Lacouturière. C'est quoi ces influences dans la santé, les comportements et les attitudes que nous pouvons avoir au quotidien ?
Eh bien, super question. En fait, derrière une attitude et un comportement, d'un point de vue chimique, il y a des libérations de neurotransmetteurs. C'est-à-dire que si on fait un focus, si on rentre à l'intérieur du corps humain, ce que tu dis, les mots, on a vu que ça a impacté la taille des pupilles. Ce que tu fais, ça engage le corps. Mais quand tu le répètes, ça devient une attitude et un comportement. Et ça va avoir des répercussions, on va dire, chimiques. Il y a des neurotransmetteurs du bonheur, du bien-être. On le sait. Et tu as aussi des neurotransmetteurs, des marqueurs du stress. Et en fonction de comment tu te positionnes, en fonction de comment tu orientes ton attitude, tes gestes, tes mots, tu libères l'un ou l'autre. Je trouve ça fascinant, quand même, non ?
Tout à fait, mais aussi tes gestes, comment tu bouges, comment tu investis ton espace.
Ouais, complètement, je te rejoins. Ce langage corporel-là, il est hyper important. En sophrologie, on parle du schéma corporel, de comment est-ce qu'on perçoit notre corps dans l'espace, et comment est-ce qu'on s'approprie les objets autour de nous. C'est beaucoup d'indicateurs qui sont importants, je crois.
Antoine, depuis le début de cette interview, on parle de l'importance des mots et dans ta pratique, bon, les mots sont importants parce que ton ton, t'écoutes ces premiers moments d'échange avec ton patient, ces moments d'anamnèse. Et puis tu es allé à la rencontre de ces professionnels de la santé aux États-Unis avec ces projets justement Rencontre USA. Comment les langages, justement, pour revenir au langage ? Tu parles français, tu parles anglais, tu es en perfection de ton anglais. Comment ça a été cette approche, justement, toi qui es attaché aux mots, aux relations aux mots, sachant que, bon, c'est pas ta langue maternelle, l'anglais.
Et oui, ben... déjà, c'est le fait d'oser me dire, eh ben, je vais être critiqué, je vais être jugé. Et sur les réseaux, il y a une forme de critique assez facile quand même. Et donc, c'était de dépasser ça en me disant... Alors, je ne sais pas comment toi, tu as vécu ça. Je pense que tu as une capacité à apprendre les langues qui est grande. Hein. La qualité de ton français avec ton accent, ça traduit ça. Dans mon cursus d'école, je ne me suis jamais senti à l'aise dans les langues. C'est-à-dire que la manière qu'on avait de le vivre, c'était de dire « j'ai raté ça ». Tu vois, on soulignait les échecs en disant « mais là, tu n'as pas accordé correctement, donc tu reprends toute la phrase ». Et ce qui fait qu'il y a un moment où moi, ça a été de dire « bon, bah, en fait, si je dis rien, je ne vais pas faire de faute ». J'exagère un peu, tu vois. Et donc, j'avais cette trouille-là de me dire « waouh, mais grammaticalement, c'est peut-être pas juste, cet accent, il n'est pas comme il faut ». Et en fait... la grande majorité des Américains, des Américaines que j'ai rencontrés, franchement, ils s'en foutent. Ils sont trop contents que tu parles leur langue. Ils sont trop contents que tu fasses l'effort. Parce que eux, en français, ils sont nuls. Alors, du coup, il n'y a pas de problème. T'essayes, tu comprends, tu mets des mots, tu mets des gestes, tu bouges, tu mets l'intention. Et donc, le fait de parler, ça m'a vraiment libéré de ça, de me dire, oui, c'est pas parfait, oui, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, mais on peut communiquer, c'est ça le plus important. Et pour revenir sur le sens des mots, eh ben, je trouve que l'anglais, ça m'a aussi ouvert des portes, notamment sur toute la sémantique du bien-être, de la santé et de la conscience. Tu vois, pour eux, il y a des mots qui sont plus subtils. Par exemple, pour décrire l'état de bien-être ou pour décrire l'état de plénitude, ils ont des nuances qui m'ont permis d'aller chercher d'autres notions. Par exemple. Ouais. Et quand les invités en parlent, dans la subtilité des mots qu'ils abordent, je me dis, tiens, ça, c'est une notion qui n'existe pas en France. Ça fait partie de cette richesse-là d'aller voir dans une autre langue.
Antoine, je voudrais partager, ok, on puisse partager avec nos auditeurs, nos auditrices, cette démarche aussi que tu lances avec ces podcasts, toucher du doigt la santé, dans une démarche transdisciplinaire, multidisciplinaire, où il y a pas des praticiens qui vont tout seuls d'un seul côté, mais au fait, c'est un complément et c'est un point de vue aussi partagé avec Pierre Tricot, qui est aussi au cœur de sa pratique et de sa générosité.
Oui, et puis c'est aussi reprendre ta place d'être humain, de petit être humain. C'est-à-dire que, alors pour Pierre, il y a son œuvre est immense, hein, on ne se rend pas compte, mais il a traduit une vingtaine d'ouvrages, il a écrit plusieurs ouvrages et il anime des formations tous les mois. Et il est à la retraite depuis un moment déjà. Enfin, il est à la retraite. 75 ans passés, voilà, donc l'œuvre de Pierre est immense. Et il reste très, très humble et très accessible. Ce que je trouve inspirant chez lui, c'est la quantité de ressources qu'il offre. Tu vois, parfois, on retient un peu. On dit, ah oui, moi j'ai cette information-là, je vais te la vendre. Ou ah, moi j'ai ce savoir-là, je vais te le vendre. Les podcasts, en règle générale, c'est une ressource gratuite. Et j'aime aussi pouvoir contribuer à la hauteur de mes capacités, de mes moyens, de me dire, eh ben, je mets à disposition des informations de qualité avec des gens qui sont experts dans leur domaine et qui peuvent changer des choses dans un allaitement, qui peuvent changer des choses dans la qualité du sommeil, qui peuvent changer des choses dans l'importance des cicatrices, bref, hein, dans tous les épisodes, à chaque fois, il y a cette notion de contribution, d'apporter une petite pièce au grand puzzle. Et là, pour le coup, la pluridisciplinarité, ben, en fait, c'est simple. Il n'y a pas d'autre solution, parce qu'on est tous en besoins fondamentaux des autres. The least you could do, cause it's a lonely little chain. If you don't add to it, so go on, just go on. There's still so many things I wanna say to you, but go on, just go on. We're bound by blood and love. Antoine, dans l'épisode du podcast Toucher du doigt la santé, justement les soins, vous d'ailleurs, numéro 19, on parle de la prévention chez les enfants et les sportifs. Pourquoi mélanger ces deux piliers, ces deux, on va dire, enfin, catégories, les enfants et les sportifs? Ouais, ouais, c'est hyper perso. En fait, là, pour le coup, c'est assez égoïste dans le sens, spontanément, c'est deux des catégories, deux des disciplines, deux des univers qui m'animent le plus. Au quotidien, les sportifs, ça fait écho avec mon passé, de sportif de haut niveau. Et les enfants, parce que c'est la majorité de ma pratique aujourd'hui en ostéopathie et en sophrologie. Philosophiquement parlant, historiquement parlant, mes deux parents sont quand même étaient instituteurs. Donc il y a cette, allez, je vais dire, cette sensibilisation sur le côté pédagogie et importance de la transmission. Et puis parce que je crois aussi que si tu veux changer le monde, il faut changer la manière de traiter les enfants. Donc, c'est un message d'espoir derrière de me dire que, en apportant des touches de conscience différentes à la manière d'être avec les enfants, on influencera de façon bien plus grande la santé de la population globale.
Dans cet épisode, on retient du coup le mot cœur de la santé, c'est la prévention, prévenir. Mais c'est fou, Antoine, juste parce que pour moi, c'est aussi très personnel, puisque depuis toute petite, j'ai côtoyé l'univers de la santé. Et ça, je trouve que c'est important, que pour moi, c'est inné, inculquer à nos enfants le sport. Ça crée un équilibre aussi dans cet état dont on parle de bien-être.
Oui, je te rejoins à 400%. Le docteur Cooper, c'est un exemple vivant pour moi. Donc, je ne sais plus les épisodes en anglais et en français, c'est peut-être 22-23, je pense que c'est ça. Et c'est un médecin américain qui a 94 ans. C'est le père de l'aérobic, c'est le créateur de l'aérobic, donc cette gymnastique rythmique qui va favoriser le développement cardio sur les années 70. Ce type-là que j'ai eu l'honneur de rencontrer en vrai, 94 ans, il nous dit dans les 8 lois fondamentales, la plus importante, c'est le mouvement. C'est-à-dire que le plus important pour rester en bonne santé longtemps, c'est de faire du sport. Pas forcément du sport de compétition, hein, mais de faire une activité physique. Et non seulement c'est important pour le corps, c'est important pour l'esprit, et c'est aussi important pour retarder la sénilité. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent maintenant que ces paramètres-là, ils permettent de vivre plus vieux et aussi et surtout en meilleure santé. Donc la prévention, oui, je pense que c'est vraiment la notion centrale pour faire évoluer notre santé. Et là, pour le coup, l'assurance maladie, la sécurité sociale, elle nous aide pas à faire ça, puisque les actes de prévention, par exemple chez les dentistes, ça coûte bien moins cher d'extraire une dent que de faire en sorte de la sauver. Tu vois, c'est qu'une manière de l'illustrer, mais il y a énormément d'exemples comme ça différents. Elle n'est pas valorisée. On a du mal à valoriser le fait de prévenir, le fait d'anticiper. On attend qu'il y ait un problème. Et je trouve ça dommage. Même chose pour le harcèlement scolaire. Je sors de mon domaine de compétences. Mais aujourd'hui, on sait l'impact que ça a sur les enfants. Et on commence à prévenir. Là où, il y a quelques temps, on disait « mais non, c'est des bêtises ». Je pense que c'est la même chose pour une pathologie. Et c'est en train d'arriver. Mais cette conscience, elle est lente. Tu vois, je trouve qu'il y a une certaine inertie quand même dans le fait de prendre conscience de ça.
Et merci Antoine. Je t'avoue que je ne l'ai pas écouté, mais je vais l'écouter avec grande attention. On va switcher à un autre sujet qui m'interpelle, c'est les mondes de l'invisible. Dans cette deuxième saison, il faut se le dire quand même, il y a cette présence de se questionner par rapport à la spiritualité, la santé, les soins, le développement personnel. On va revenir à cet épisode, donc les secrets de famille, les deuils, la place dans la fratrie, la connexion, l'alignement, les créateurs. Et pour ce faire, dans cet épisode numéro 21, donnons la parole à votre âme. Donc on parle des hypnoses et des constellations familiales. Est-ce que tu peux nous rappeler la personne qui t'a interviewé et qui est-elle?
Alors, Sophie Rouméas, elle a un parcours extraordinaire, Sophie, que je salue au passage. Elle est thérapeute aujourd'hui, mais au départ, elle a un master donc elle a un diplôme universitaire dans un domaine vraiment différent. Et elle est devenue thérapeute pour un cheminement, je veux dire, personnel, parce qu'elle s'est rendue compte de certaines choses. Elle a évolué et aujourd'hui, elle pratique l'hypnose, les constellations familiales et plein d'autres manières de soigner. Et Sophie, elle exerce à Annecy, dans un centre pluridisciplinaire, encore et toujours, avec Philippe Andréani, dont on avait parlé dans notre première interview, Nini, il y a un moment déjà. Et donc, ils sont tous les deux à Annecy à travailler en équipe avec d'autres thérapeutes. Et elle a la particularité aussi de vivre une partie de l'année aux États-Unis. Donc, elle a ces deux visions croisées qui sont hyper enrichissantes et ça fait partie des personnes qui ont vraiment influencé mon voyage et je la remercie une nouvelle fois pour ça. Et donc dans l'épisode 21, on parle de sujets qui sont délicats, on parle de l'invisible entre guillemets, d'une partie de l'invisible, notamment des héritages inconscients, je vais dire, de nos ancêtres, de comment est-ce que la vie de nos familles ça va impacter aujourd'hui nos santé. Comment est-ce que ce qui s'est passé des générations avant, ça peut avoir un impact ou pas? Et j'ai vraiment apprécié la douceur et la délicatesse de Sophie pour nous partager ces sujets qui sont délicats et qui commencent malgré tout à faire bouger les lignes, même jusque dans la science dure. Je te donne un exemple. Chez les rats, donc les rats, les animaux, les rongeurs, il y a des expériences qui ont été faites sur le fait de stresser des rats avec un bruit associé, un déclenchement sonore, on les stresse. Et on le reproduit sur plusieurs générations. Et pendant un certain nombre de générations, on va arrêter de les stresser, arrêter le bruit. Et puis on refait le test sur des dizaines de générations plus tard. Et on arrive à déclencher du stress et une réaction avec simplement le son 10, 12, 15, 20 générations plus tard. Je sais pas si tu te rends compte de ça, c'est-à-dire qu'ils ont plus
c'est
été...
Fou.
Mais c'est colossal,
non.
C'est colossal. Donc on s'interroge aujourd'hui sur le pouvoir de l'ADN, cette partie génétique, et sur l'épigénétique, comment le contexte ça va pouvoir le faire. Ça ouvre aussi sur les transmissions. Et là, on aborde des sujets qui sont délicats, la généalogie, la psychogénéalogie, et c'est des sujets qui sont passionnants, qui sont touchy parce que c'est délicat, mais ça fait partie du quotidien et il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles à ça.
Antoine, tu sais, je ressens un truc avec toi que tu as ressenti un peu avec Pierre Tricot, c'est qu'on a tellement de matières à explorer, on ne peut pas décortiquer chaque épisode. On invite vivement nos auditeurs, auditrices à aller choper tout ça. Mais quand je préparais cette interview, je dis mais on a tellement de choses à partager, à se dire, à se raconter. Pour boucler Sophie, puisque ça m'a beaucoup marqué, interpellé. Il y a plein de concepts qu'elle mélange, qu'il travaille. Elle avait parlé de la psycho... Aïe, psycho... Ah là là, j'ai oublié.
Psychogénéalogie peut-être.
Psychogénéalogie. Là, j'ai trouvé ça intéressant, puisqu'on parlait de la mémoire aussi transgénérationnelle.
Oui.
Mais pour revenir à Sophie et ses questions, puisqu'elle a écrit un livre... Et du coup, il posait des questions. Est-ce que j'aime ma vie en ce moment? Est-ce que je suis bien au travail? Mon quotidien a-t-il du sens? Et c'est quand même des questions qui traversent notre existence.
Oui. Alors, c'est effectivement des questions existentielles qu'un certain nombre d'entre nous se posent. Et elle a écrit plusieurs livres, Sophie, que je vous invite à parcourir. Ils sont tous sur son site internet. Et elle a une particularité, c'est qu'elle a l'art de relier les gens. Donc c'est souvent des ouvrages collaboratifs. Il y a plusieurs personnes qui écrivent et elle, qui est un peu comme le chef d'orchestre. Et donc c'est des questions qui m'ont interpellé et j'ai ressenti un petit peu la même chose que toi, je crois, quand je l'ai rencontrée avec ces questions-là en me disant « Mais bah oui, on va avoir de quoi discuter là. Ouais. »
Revenir à l'épisode numéro 23 et améliorer sa vie et sa santé. On commence à arriver à la fin de cet entretien. On va échanger, bien entendu, après voilà, cette belle rencontre. Et vous parliez dans cet épisode des 8 éléments clés pour justement améliorer sa vie, sa santé. Si tu veux bien faire un petit transfert d'informations pour nos auditeurs, nos auditrices de cet chapitre passionnant avec les docteurs Kenneth Cooper.
Alors je peux, j'ai pas de notes, je préviens, ça va être deux têtes, donc ça sera peut-être, ça sera peut-être pas dans l'ordre, mais l'idée de ces 8 éléments clés, juste pour le contexte, il a plus de 60 ans de médecine derrière lui et au départ il n'y avait pas de pas d'imagerie comme il y a aujourd'hui, pas de manière de faire des examens aussi poussés. Et donc, il continue de les faire. C'est-à-dire que ces 8 conseils qui sont simples, mais qui sont issus de 60 ans de recherche. Le premier, c'est faire du sport la plupart des jours de la semaine. Et j'adore cette notion de la plupart, de faire du mouvement 30 minutes par jour, 5 jours dans la semaine. C'est apporter une attention sur la qualité du sommeil. Bien dormir, ça fait partie des choses qui sont fondamentales. C'est aussi surveiller sa nutrition et 80% du temps faire attention, 20% du plaisir, mais c'est très important. Il donne le conseil de se supplémenter, notamment en vitamine D, parce qu'il pense qu'une grande partie de la planète n'est pas assez supplémentée. Dans les autres conseils, il y a aussi d'autres vitamines et d'autres minéraux et d'autres choses au-delà du concept marketing américain de vendre des compléments alimentaires. Il y a vraiment cette notion d'apporter plus. Il y a aussi le fait d'éviter l'alcool, d'éviter le café, c'est vrai, et les drogues en général. Ça fait partie des choses qu'il donne comme conseil. Il va, je réfléchis, c'est ça qui me vient à chaud sans mes notes. Il y en a un autre, mais du coup ça fait un petit teasing pour la suite. À rendez-vous pour le trouver sur le site de Radio Vassivière pour aller chercher le conseil qui manque, je crois.
C'est ça, l'invitation est donnée. On va parler de la notion de transformation, ça t'est dit ?
Ouais, bien sûr. Ça y est, j'ai retrouvé le conseil qui manque, qui fera écho avec les soignants et l'importance sur le territoire. Voilà.
Très bien. Quand vous parliez des transformations, c'est quoi ces liens entre la transformation et aussi la santé ?
Par rapport à
la transformation des soi et sur la quête aussi des soi.
Dans l'épisode avec le docteur Cooper.
Oui. Mmh.
Alors le docteur Cooper, il nous a fait la confidence de dire qu'il était croyant, qu'il était pratiquant, et dans les éléments de sa vie du quotidien, il nous parle de sa routine journalière en disant voilà, tous les jours de ma vie, je vais marcher. Je passe du temps avec ma famille, l'importance des relations humaines, je rajoute ça au passage, petit clin d'œil. Et je lis la Bible, j'étudie tous les jours la Bible. Et tu vois, là je laisse des points de suspension parce que pour nous en France, qu'un monument, qu'un géant de la médecine, parce qu'il fait de la médecine préventive, il puisse dire qu'il étudie la Bible, ça veut dire qu'il prend quand même une posture avec une certaine croyance et qu'on sort des faits objectivables et scientifiques prouvés. Et donc quand il parle de transformation, je pense qu'il fait appel à cette notion de spirituel, de donner le meilleur soi-même, d'être aussi relié à quelque chose de plus grand. À différents moments dans l'interview, il va parler du Seigneur, de Dieu, qui peut être rappelé à la maison, qu'il est prêt. Et cette notion de mission de vie un petit peu, d'améliorer à la hauteur de ce qui est possible pour toi, ta vie à toi et celle des gens autour de toi. Je le perçois comme ça, je crois.
Antoine, pour boucler peut-être l'échange vis-à-vis de cette nouvelle saison de podcast « Toucher du doigt la santé », un petit mot pour lier les deux concepts dans le chapitre numéro 26 de l'art et la santé.
En fait, c'est un des éléments fondamentaux pour l'équilibre de l'être humain. Et ça, c'est pas moi, Antoine Lacouturière, petit ostéopathe, qui le dit, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. L'Organisation Mondiale de la Santé, elle a commandé des études énormes. Ils ont recoupé 900 études, je crois, de mémoire, partout dans le monde, pour dire, voilà, les patients qui ont accès à de l'art, qui sont exposés à de l'art, et peu importe la forme, toi qui es artiste, tu vois bien de quoi je parle, peu importe la forme, des sculptures, des tableaux, du son, de l'expérience sensorielle, bref, large. Ils vont changer leur état de santé. Ils vont guérir plus vite. Un patient dans une chambre où il y a de l'art, où il y a un objet d'art, où il y a un moment d'art, ça va modifier quelque chose à l'intérieur de son corps. Je ne suis pas en train de dire qu'en regardant un tableau 15 secondes, vous allez éviter toutes les maladies de la Terre. Par contre, je suis en train de dire que l'OMS recommande le fait d'inclure l'art dès que c'est possible dans les parcours de soins chez les patients. Et j'ai envie d'ouvrir cette proposition-là en disant si c'est vrai pour les patients, c'est vrai pour monsieur et madame tout le monde. Mais là, ce n'est pas à toi que je vais le dire, toi qui es déjà artiste, tu vois. Mais donc oui, c'est un épisode qui m'a touché et Sam, son art à lui, c'est la poésie. Et donc, il relie les mots, l'impact des mots avec les images, parce qu'il crée des images en associant ces mots-là. Et Sam, il a eu un parcours extraordinaire, un parcours de vie. C'est probablement une des rencontres américaines qui m'a le plus touché, le plus inspiré, alors qu'il est ni médecin, ni... Il n'a pas de diplôme de professionnel de santé. Il est simplement... Alors simplement, je mets plein de guillemets là. Il est simplement artiste. Il a quand même été PDG d'une boîte multimilliardaire, mais avant ça, il était aussi bébé sur un bateau de réfugiés. Tu vois, je sais pas si t'imagines la transition dans sa vie. Et aujourd'hui, il écrit des poèmes qui sont lus par des centaines de milliers de personnes dans le monde. Et je trouve que c'est aussi une manière d'apporter du bien-être et pourquoi pas quelques brins de santé.
C'est beau ça, tu m'as mis la puce à l'oreille, on finit cette interview directe, je vais m'écouter le podcast numéro 26, l'art et la santé. Ben, on est parti vraiment dans les cosmos, j'étais avec toi en Californie, aux États-Unis, avec toutes ces personnes magnifiques que tu as rencontrées. On va revenir au territoire, on va parler de ces centres de soins transdisciplinaires ici en Limousin.
Oui, merci Nini d'ouvrir un petit espace là-dessus. Et ben, comme tu le sais, parce qu'on en avait parlé, et puis... Je remercie aussi Radio Vassivière parce que c'est pas la première fois que vous ouvrez le micro et je trouve que c'est précieux sur le territoire, donc un grand merci avant même de commencer ça. C'est un projet qui me tient fort à cœur. C'est un projet qui me tient à cœur et puis ça fait écho avec tout ce que tu viens de partager, tout ce qu'on vient de partager tous les deux aujourd'hui dans les micros, de se dire l'équipe elle est plus forte que l'individu, le territoire il est magnifique, on a des compétences et moi j'ai envie de travailler comme ça. Pour plein de raisons différentes, ça a pas pu se faire aussi près que ça du studio de Royer de Vassivière. Et c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Par contre, pour plein d'autres raisons, ça va avoir lieu quand même, et en Limousin, et ça c'est génial. Et donc on ouvre un centre avec mon associé et mon ami Gabriel, que je salue. Et ce centre, il ouvre dans quelques semaines. Il ouvre pas très loin de Limoges, de la ville, de la grande ville. Il ouvre à Fethia, et on est hyper, hyper, hyper contents, parce que notre projet rêve, c'était de créer un centre et notre grand, grand rêve, c'était de pouvoir soigner les gens dans l'eau. Et donc, dans quelques semaines, il y aura un bassin avec de l'eau à 35 degrés pour venir prendre soin des patients qui viendront nous rencontrer dans l'eau chaude avec un petit clin d'œil sur une vue très dégagée, sur de la nature. Et ça c'était vraiment quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur. Donc le projet voit le jour dans quelques semaines. Dans quelques jours, on ouvre le site internet avec les prises de rendez-vous en ligne pour faire des soins dans l'eau. Et puis vraisemblablement, voilà, l'ouverture, c'est début juillet, quoi.
Alors, il s'appelle comment ce site internet?
Aïe, aïe, aïe. Et c'est pas encore en ligne. Alors bon, mais ça s'appelle Metanoia. Metanoia, et on en avait parlé ensemble, Metanoia, c'est un mot d'origine grecque. Je vous laisse aller sur les réseaux, vous trouverez toutes les infos dessus. Metanoia, centre de soins. Voilà, Metanoia, centre de soins.
Continuer pour boucler cet échange riche en émotions avec cette nouvelle formation Sophrostéo. De ouais. Quoi il s'agit?
Eh ben, je vais dire que c'est le fruit du travail de ces 15 dernières années d'ostéopathie et de sophrologie, un peu plus de 15 ans maintenant même. Waouh! L'idée, c'était de relier ces deux manières de soigner, avec les outils de l'ostéopathie que tout le monde commence à connaître maintenant. L'ostéo, ça fait partie du quotidien de beaucoup. Et la sophrologie, qui est peu connue, ou souvent associée à quelque chose d'assez aérien, d'un petit peu perché, parfois même plus, alors qu'en fait, il y a une base très neurophysiologique. On peut vraiment faire de la précision en sophro et travailler sur le système nerveux notamment avec des outils très simples. Et au quotidien, tu vois, je répète dans mes consultations des fois 5, 10, 15 fois par jour des outils simples pour les patients. Et je me rends compte que c'est aussi vrai pour certains thérapeutes qui sont intéressés pour progresser dans les pratiques. Pendant longtemps, je me suis dit, je suis pas légitime parce que je suis trop jeune ou parce que je sais pas faire ça ou pas faire ça. Et en fait, après avoir rencontré tous ces personnages du podcast, après avoir fait beaucoup de formations, je me rends compte que ce domaine de compétences, je l'ai acquis et qu'aujourd'hui, je suis en mesure de le transmettre. Et donc, Sophrostéo, c'est moi qui ai créé ce terme-là pour relier les deux et dire on trouve un chemin commun de conscience dans les soins et on améliore, on optimise le bien-être, le relâchement de nos patients. Et il y a plein de petits outils qui sont dérivés de ces deux pratiques qui favorisent le bien-être et les soins. Voilà, l'idée, c'est de le mettre à la portée des thérapeutes pour ceux qui ont envie d'aller un cran plus loin.
C'est adorable, c'est génial. C'est une très belle opportunité.
Merci beaucoup, Nimi. Merci.
Alors, si nos auditeurs, nos auditrices souhaitent, ils veulent avoir plus d'informations, ben, on les invite à aller sur ton site internet, antoinelacouturière.fr. Vous regardez la rubrique formation et là, vous trouverez toutes les infos pratiques. Et on peut s'inscrire. Hein. C'est ouvert, c'est ça?
Pour l'instant, c'est ouvert principalement pour les thérapeutes et il n'y a pas de... Je vais dire qu'il n'y a pas de ségrégation, de racisme. À partir du moment où on a envie, c'est ouvert à plein de personnes différentes. J'ai réfléchi à le faire sur une version plus accessible aux familles pour que des patients qui aient envie puissent faire une journée. Je mets quand même un tout petit garde-fou. L'intensité des dernières semaines a été importante et donc elles auront lieu à partir de l'automne. Mais oui, avec joie, bien sûr.
Donc le petit mot de la fin, on se quitte, ça fait 1h02 qu'on échange, ça va tellement vite. Vous ne vous inquiétez pas, auditeurs, auditrices, on va vous faire 2 chapitres, comme ça vous pourriez l'écouter dans la quotidienne avec Justine en 2 parties. On vous met l'eau à la bouche et après vous reviendrez sur le site internet des radioassiver.com pour écouter l'intégralité. Alors je te laisse les mots de la fin.
Et je te remercie. Pour commencer, je te remercie pour ton accueil une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici, dans ce studio chaleureux. Je te remercie aussi d'ouvrir ces espaces pour diffuser ces informations au plus grand nombre, avec ce sourire et cette voix pétillante. Donc merci pour nos échanges. Et puis le petit mot de la fin, c'est de dire que je pense que chacun peut semer des graines avec son propre niveau, et c'est l'invitation que j'ai envie de faire aux auditrices et aux auditeurs. On a des diplômes, parfois des diplômes complexes, mais dans nos quotidiens, il y a plein de toutes petites choses qu'on peut faire, et j'ai vraiment envie d'encourager les gens à dire ça. Une petite chose à la fois, être plutôt humble et bienveillant avec soi-même, en disant qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Par contre, de prendre soin de soi dès maintenant, je crois que c'est important, et je vous invite, je vous encourage à le faire, voilà, en quelques mots.
Merci Antoine, je rappelle que tu es ostéopathe et sophrologue installé au cœur du Limousin depuis 2015 et que nous avons échangé autour aussi de la 12e saison de Toucher du doigt la santé, ce podcast qui est un espace de réflexion et de rencontres autour du soin, du bien-être et de la santé. Vous pouvez écouter tous les épisodes dans les plateformes de streaming préférées, Spotify,
Apple Podcasts, Deezer, YouTube, partout.
La totale. Ouais. Et sur radioassiver.com, bien entendu. Vous pourrez écouter aussi Toucher du doigt la santé sur les ondes de votre radio locale préférée chaque après-midi. Et à Feitia, on écoute Radioassiver sur les 88.6 FM. Et partout dans le monde, aux États-Unis, sur radioassiver.com.